Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure, 22h30, minuit, sans aucune interruption. Soir Info vous accueille en compagnie de Yoann Uzaï ce soir.
Bonsoir
Yoann, journaliste politique évidemment, pour le service politique de CNews. Éric Tegner, directeur de la rédaction de Livre Noir.
Bonsoir
cher, avec plaisir de vous retrouver en ce jeudi, tout comme Régis Le Sommier, journaliste et rédacteur en chef d'Omerta, bien sûr. Raphaël Steinville, journaliste pour le JDD, voilà l'équipe. Bonsoir cher Raphaël, voilà l'équipe au complet pour ce soir. Beaucoup d'actualité. Évidemment, l'actualité majeure, ce sont les derniers développements autour de l'attaque au couteau de Bordeaux, qu'on vous a d'ailleurs commenté tout au long de la soirée avec vous, hein, notamment Régis, Yoann, hier, on était en direct de Bordeaux, et puis la conférence de presse aujourd'hui du procureur qui nous en dit plus. On reviendra très largement sur cette actualité et toutes les conséquences qu'on peut d'ores et déjà en tirer. Mais d'abord, je voulais qu'on s'intéresse à l'actualité internationale, puisque là aussi, sans mauvais jeu de mots, elle est brûlante. Les services de renseignement américains s'inquiètent d'une attaque imminente de l'Iran contre Israël. Plusieurs jours après qu'une frappe de l'État hébreu a ciblé l'ambassade iranienne en Syrie, Téhéran pourrait utiliser des drones et des missiles. Les États-Unis d'ailleurs, par l'intermédiaire du président Biden ou encore de la porte-parole de la Maison-Blanche, le confirment. Ils disent d'ailleurs, on ne sait pas la question n'est pas de savoir si elle aura lieu, mais quand elle aura lieu, pour être beaucoup plus clair. Donc on va revenir là-dessus. On va entendre cette première réaction du président de la Knesset. C'est bien sûr le Parlement israélien qui était en déplacement en France. Aujourd'hui, il avait choisi CNews pour livrer son témoignage et répondre à l'interview de Laurence Ferrari. Écoutez-le donc réagir à cette menace iranienne confirmée notamment par les Américains ces dernières heures.
Si nous sommes attaqués par l'Iran, nous répondrons.
Il ne faut pas oublier
par contre que nous ne devrions pas être seuls ici.
Je m'attends à ce que nos amis du monde libre transmettent exactement le même message et
qu'ils joignent le geste à la parole si malheureusement une telle attaque devrait se produire.
Régis Le Sommier, je me tourne d'abord vers vous. Alors, je précise donc à nos téléspectateurs, l'Iran se préparerait à mener une attaque massive contre Israël dans les prochains jours en réponse à cette frappe israélienne du 1er avril à Damas. L'inquiétude est grande de voir le pays qui finance, qui arme, le Hezbollah, le Hamas, également, bien sûr, entrer dans une guerre frontale avec l'État hébreu. Je vous donne évidemment la parole. Je voudrais juste qu'on voit d'abord ce tweet du ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz. Si l'Iran mène une attaque depuis son territoire, Israël répondra et attaquera l'Iran. À quel point faut-il prendre cette menace au sérieux, Régis Le Sommier ?
C'est une menace qui plane sur l'ensemble de la région depuis le 7 octobre, si vous voulez. Il y a eu plusieurs phases dans cet affrontement, parce que l'affrontement, il va même au-delà de la région, puisque les Houthis ont commencé par capturer des vaisseaux appartenant à des hommes d'affaires israéliens, et puis ont commencé à en couler d'autres à l'aide de drones, etc., etc. Donc, si vous voulez, la guerre, elle se fait pour le moment par proxy. Le Hezbollah est rentré dans une phase aussi de confrontation avec Israël à la frontière nord d'Israël, phase qui a été, si vous voulez, une guerre d'attrition pour le moment, avec de la part d'Israël une forme de manière de contenir le Hezbollah, et pour le Hezbollah aussi, une manière de dire on intervient en solidarité avec le Hamas et avec Gaza, mais on ne va pas trop loin non plus. Donc jusqu'à présent, il y a une sorte de gradation des ripostes, et chacun fait attention à ne pas aller trop loin.
C'est pas la première fois que l'Iran menace Israël. Pourquoi cette menace est plus sérieuse que les autres ?
Cette menace, elle est plus sérieuse. Pourquoi ? Parce que depuis le début, Israël pratique également une politique d'assassinat ciblé. C'était contre les Pasdaran, donc les gardiens de la révolution iranien, qui ont subi, il y en a au moins, je vais dire, une quinzaine de très haut gradés des gardiens de la Révolution qui ont été éliminés par des frappes ou de drones, parfois dans des endroits absolument incroyables, comme à la Daïe, c'est-à-dire dans le fief du Hezbollah au sud de Beyrouth, où le responsable du Hamas pour le Liban a été éliminé, et un certain nombre de Pasdaran également. Et si vous voulez, ce qui a mis le feu aux poudres de façon plus décisive, ça a été la frappe israélienne sur le consulat iranien à Damas, donc où il y a eu 11 morts, et là il y a 7 gardiens de la Révolution qui sont morts, qui sont parmi ces morts. Donc si vous voulez, il y a ce qui se passe, c'est que l'Iran aujourd'hui ne peut pas ne pas riposter. Et aujourd'hui, la vraie question qui va se poser, c'est effectivement, comme le disent les Américains, c'est pas si, c'est quand, mais dans quelle proportion? Et qu'est-ce qui va être visé? L'Iran a dit, quand il y a eu cette attaque de consulat, a noté quand même que c'est exceptionnel, qu'on ne touche pas à la représentation diplomatique, que c'est quelque chose qui normalement est sacré. Voilà. Bon, Israël a franchi le pas avec l'Iran, donc a manifesté une volonté d'aller plus loin, et l'Iran a dit...
En faisant cette frappe, Israël pouvait également décemment anticiper la réaction iranienne.
Évidemment,
donc il y a peut-être une escalade voulue.
Il y a une escalade voulue, peut-être, de la part de Netanyahou pour faire durer la guerre, puisque on va voir ce qui va se passer, parce qu'il faut voir que tout ça évidemment s'articule autour des opérations de Tsahal dans Gaza. Aujourd'hui, l'armée israélienne s'est retirée de Khan Younes, donc va-t-il
y
avoir
l'offensive de Rafah est toujours prévue et annoncée par Benjamin Netanyahou. On y reviendra d'ailleurs dans un instant.
Et là, on est dans une situation qui est bien embarrassante, parce que en effet, il y a un risque que c'est de notoriété publique. Netanyahou a plusieurs fois menacé l'Iran. Il a promis plusieurs fois que les frappes sur l'Iran seraient ce qu'il souhaiterait. Et en réalité,
numéro un d'Israël depuis des années.
Oui, enfin, pas de tous les Israéliens. Il y a des Israéliens qui, au contraire, disent qu'ils ne veulent pas jeter de l'huile sur le feu. Mais la politique de Netanyahou, depuis qu'il est Premier ministre, il n'a pas toujours été Premier ministre. Hein, il est en politique depuis très longtemps. Mais ça a toujours été de dire il faut la menace la plus grande pour nous, la menace existentielle, c'est l'Iran. La vraie question, c'est est-ce que Netanyahou va embarquer les États-Unis dans cette guerre? Parce que le meilleur atout pour Netanyahou aujourd'hui, qui est fait face à énormément de critiques face à la tenue de son opération dans Gaza, c'est est-ce que les États-Unis vont continuer à le soutenir, et surtout à le soutenir militairement.
Alors,
parce que Joe Biden le critique, Joe Biden ne veut plus, surtout, et là il y a eu l'histoire des humanitaires de la fameuse ONG José Andrés, le fondateur, est un ami personnel de Joe Biden. Donc il y a quelque chose qui s'est produit, mais les Américains disent menace, menace, menace. Ils continuent à donner des armements à Israël sans discontinu. Donc ça veut dire que pour le moment, il y a le soutien des États-Unis est acquis.
Mais il souffle un peu le chaud et le froid ces dernières 24-48 heures de Joe Biden vis-à-vis de Benjamin Netanyahu.
Exactement.
Parce que d'un côté, il se montre assez ferme sur l'offensive de Rafah en disant que ce serait une erreur, et de l'autre, il est très, il montre son soutien indéfectible à Israël quant à une éventuelle attaque iranienne. D'ailleurs, écoutez le président des États-Unis ces dernières heures par rapport à une éventuelle donc offensive iranienne sur l'État israélien.
Comme je l'ai dit au Premier ministre Benjamin Netanyahou, notre engagement pour la sécurité d'Israël face à ces menaces de l'Iran et de ses alliés est inébranlable. Je répète, inébranlable. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour protéger la sécurité d'Israël.
Il faut peut-être dire une chose également, Régis Le Sommier, c'est que la force de frappe de l'Iran, elle est autre que celle du Hamas. L'Iran, c'est... D'ailleurs, quelle est la force de frappe de l'Iran comparée au Hamas contre lequel l'État hébreu est en guerre depuis 6 mois?
Ah, c'est une puissance 10. C'est-à-dire que l'Iran peut frapper avec le Hezbollah.
L'Iran, c'est un pays qui est en train d'acquérir l'arme nucléaire.
Tout à fait. Mais l'Iran a déjà des missiles de moyenne portée, des missiles balistiques, a un certain nombre dans son arsenal d'objets avec lesquels il peut frapper l'État d'Israël. Mais l'Iran peut aussi frapper
Régis, ça veut dire que factuellement, Téhéran pourrait s'en prendre directement au territoire israélien.
Alors oui,
et, depuis
mais,
son propre sol.
Mais également, Téhéran a dit, il n'y a plus aucune ambassade israélienne dans le monde qui est sûre à 100%. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi D'accord. riposter contre une ambassade, ils peuvent riposter contre des intérêts israéliens. Il y a un choix et ils peuvent riposter ce qu'ils aiment bien faire parce que les Iraniens sont des joueurs d'échecs via leur proxy. On l'a vu avec
Rappelez
les outils.
Ce que sont les proxys, hein, proxys, c'est le Hezbollah, ce sont ces organisations voilà. qui sont Exactement. Satellites de
voilà. l'Iran. Et qui les permettent, outils, les outils surtout,
dont on a parlé
qui ont perturbé durablement le trafic en mer Noire, en mer Rouge, pardon, et qui ont posé un problème économique à Israël puisque une part de l'acheminement du fret maritime vers Israël a été interrompue. Ça a vraiment posé des pénuries, il y a eu vraiment des problèmes, et ça, c'est un auxiliaire de l'Iran que l'Iran peut utiliser. Mais la question, c'est est-ce qu'il va y avoir une gradation, une proportion dans la riposte, c'est-à-dire est-ce que l'Iran va dire, voilà, vous avez frappé notre ambassade, vous avez frappé notre consulat, nous allons, œil pour œil, dent pour dent, nous attaquer à une ambassade d'Israël dans le
Partons
monde.
Partons du scénario du pire, une offensive iranienne sur Israël. Israël a les moyens de combattre sur plusieurs fronts.
Israël a la bombe atomique. Voilà.
Donc jamais il n'y aura d'escalade. Ça.
L'Iran ne l'a pas encore, mais voilà. Même si c'est un secret de Polichinelle, tout le monde le sait. Mais la vraie sécurité d'Israël, justement, c'est de posséder cette arme. Et donc là, il y a une disproportion aussi. Mais je ne crois pas que. Je pense que l'Iran va riposter parce qu'il n'a pas le choix, mais dans des proportions qui, à mon avis, me semblent pas de nature à faire en sorte que la guerre...
Nous sommes prêts et en état d'alerte. Message ces dernières minutes du porte-parole de Tsahal à propos de la menace iranienne. Donc l'escalade verbale, elle est bien présente. Cette situation d'avant-guerre, elle est objective. Maintenant, reste à savoir si l'Iran bluffe, en fait, tout simplement.
Oui, si l'Iran bluffe ou si l'Iran ripostera. Ce qui est à peu près certain, c'est que l'Iran ripostera. Mais dans quelle proportion, c'est ça qui va être intéressant pour la suite.
Un petit tour de table avant de parler également de l'autre versant de la situation au Proche-Orient, à savoir cette offensive annoncée par Benjamin Netanyahou dans le sud de Rafah, malgré les alertes de plus en plus grandes de l'opinion internationale et principalement des Occidentaux. Un mot sur cette menace iranienne, Eric Tegner et Raphaël Steinville.
Moi, je trouve que le risque est un peu inconsidéré de la part d'Israël, justement, de monter dans cette escalade. Et derrière, l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est aussi la difficulté qu'ont les États-Unis aujourd'hui à contrôler quand même leur allié Israël. Ils leur font des demandes incessantes depuis des semaines, notamment concernant le cessez-le-feu. Et Netanyahou, finalement, ne les écoute pas vraiment. Donc ça, c'est un facteur important. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que derrière ça, c'est véritablement la victoire du Hamas. Parce qu'on sait, quand on revient sur les explications du 7 octobre, que l'Iran, finalement, n'était absolument pas ravi que le Hamas fasse ça. Déjà parce qu'ils ont pris des plans, en fait, que justement l'Iran voulait utiliser dans le cas d'une escalade. Et le Hamas a l'objectif, justement, son objectif aussi, c'est que la guerre puisse continuer. Mais derrière, à un moment donné, il va falloir aussi contrôler Israël en leur faisant comprendre que l'utilisation de l'arme nucléaire, ça ne doit pas être le dernier recours, ça ne doit pas être justement le premier recours la prochaine fois en cas d'escalade, et que ça reste aujourd'hui quand même un État qui est très isolé sur cette zone. Et que l'objectif d'abord, c'est la destruction du Hamas dans Gaza, c'est pas justement l'explosion de cette région.
Ça fait 6 mois que ça dure. D'ailleurs, on se dit que le but de guerre n'est pas rempli. Est-ce que Israël est en échec depuis 6 mois?
Le Hamas a réussi une chose au niveau de l'opinion publique mondiale, c'est à remettre la question palestinienne au centre. Question palestinienne qui avait pratiquement disparu avec les accords d'Abraham, avec le probable rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël.
Vous diriez que ces 6 mois de guerre sont un échec pour Israël?
Je dirais que c'est quand même très difficile de voir la fin. La vraie question, c'est qu'il faudrait, pour Israël, me semble-t-il, qu'il y ait significativement des chefs du Hamas étant derrière cette opération du 7 octobre, qui soient arrêtés ou éliminés. Pour le moment, il n'y en a pas. On nous parle des enfants d'Ismaël Haniyeh, des petits-enfants qui ont été ciblés dans une frappe, mais ça ne suffit pas. Si vous voulez, c'est l'architecture derrière le 7 octobre qui doit être détruite. Pour le moment, rien n'indique qu'elle est détruite, rien n'indique que le Hamas, même si il a subi, évidemment, il a été meurtri quand on voit l'étendue du désastre à Gaza, mais il n'a pas perdu, il n'a pas comment déposé les armes.
Alors on en parle, ce sont plus les populations de Gaza qui ont souffert que les terroristes du Hamas. Raphaël et Yohann, je vous laisse réagir dans une seconde. Je voudrais juste qu'on entende ce deuxième extrait de Joe Biden, puisque je le disais, soutien important des USA contre une offensive iranienne. En revanche, la veille, Joe Biden s'est dit contre la politique menée par Benjamin Netanyahou dans la bande de Gaza, qualifiant d'erreur cette probable offensive annoncée, en tout cas dans le sud de Rafah, par le Premier ministre israélien. Et Joe Biden appelle Israël à conclure rapidement un cessez-le-feu. Écoutez-le.
Je pense que ce qu'il fait est une erreur. Je ne suis pas d'accord avec son approche. Je demande aux Israéliens d'appeler à un cessez-le-feu et de permettre, au cours des 6 à 8 prochaines semaines, un accès total à la nourriture et à tous les médicaments entrant dans le pays.
Raphaël, jamais le président américain n'avait jugé aussi sévèrement, que je sache, la politique israélienne.
Oui, mais c'est un peu le paradoxe. C'est qu'en même temps que le président des États-Unis se montre extrêmement sévère à l'égard de la politique de Netanyahou, c'est le même qui, le lendemain, explique qu'il sera toujours aux côtés d'Israël de manière continue et sans que cela soit remis en cause. En fait, ce qui est particulièrement quand même inquiétant dans le contexte, c'est que jusqu'à présent, même si ça peut choquer de le dire, l'Iran avait toujours fait preuve, en tout cas depuis le 5 octobre, d'une certaine retenue. Alors certes, tous les proxys qui étaient activés pouvaient l'être peut-être par l'Iran, mais ce n'était pas l'Iran en tant que tel qui était à la manœuvre. L'escalade depuis le
premier... Il y a un face-à-face plus frontal.
L'escalade depuis le 1er avril, effectivement, laisse craindre le pire, et les avertissements des États-Unis, et on se souvient que c'est eux qui, les premiers, avaient alerté de l'imminence d'une invasion de l'Ukraine, sont à prendre à cet égard avec le plus grand des sérieux.
Je peux faire trois remarques rapidement, vraiment très rapide par rapport à ce que dit Biden. C'est très intéressant parce que il faut comprendre déjà la toile de fond campagne électorale américaine. Biden est actuellement à la traîne par rapport à Donald Trump et il a besoin de reconquérir les campus américains, ces jeunes qui lui ont donné l'élection dernière fois et qui aujourd'hui sont massivement soutien aux Palestiniens et pour qui la cause palestinienne est très importante. Et là, les États-Unis sont face à l'agenda est dicté par rapport à l'élection.
Il y a une conjoncture électorale qui fait que s'adresse plus à ses électeurs de manière objective sur ce qu'ils pensent vraiment.
Exactement. Il y a l'autre aspect, c'est le fait que l'ONG World Central Kitchen a perdu donc 7 de ses membres dans une frappe israélienne que Joe Biden lui-même juge délibérée et pas du tout accidentelle. Il l'a dit. Pourquoi ? Parce que Joe Biden a en plus est très ami avec le fondateur, un cuisinier d'origine espagnole qui s'appelle José Andrés, très populaire aux États-Unis, qui est une sorte de bon Samaritain et très médiatisé, etc. Et là, 7 des membres sont assassinés. C'est un ami personnel de Joe Biden. Donc là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème.
Mais je terminerai. Avec les Américains, parce qu'il y a évidemment les résolutions de l'ONU qui ont été votées. Il y a une très grande partie des pays occidentaux qui appellent cesser le feu. Cette tribune entre Emmanuel Macron, le roi de Jordanie et le président égyptien également qui réclame un cessez-le-feu, on a vraiment l'impression en ce moment que c'est Israël contre le reste du monde.
Oui, mais
qu'on n'aurait jamais imaginé le 7 octobre d'ailleurs.
Oui, mais là, et c'est là où l'ironie persiste, c'est-à-dire que tant que le flot et la fourniture d'armes par les États-Unis à Israël continue, il n'y a pas de raison que ça change. Si vous voulez, là où Joe Biden pourrait justement tordre le bras de Netanyahou, c'est en lui disant, je fais comme en Ukraine, j'arrête de fournir des armes, ou en tout cas, je mets la pédale de frein. Il n'a pas fait, les armes continuent à arriver, Netanyahou est tranquille.
Yohann Uzaï.
Oui, d'abord, moi j'ai envie de penser aux Israéliens qui, depuis 6 mois, sont absolument terrorisés, et qui en plus sont en train de se demander en ce moment jusqu'où ira la guerre avec l'Iran. Donc on voit bien que c'est leur existence même qui est menacée. Et face à cette menace existentielle, la seule réponse de la France et de M. Séjourné a été de menacer de sanctions nos amis israéliens. Donc ces propos font honte à la France et j'ai honte aussi de voir que ces propos n'ont toujours pas été démentis par le président de la République, parce que parler de sanctions contre un pays ami qui traverse les circonstances les plus difficiles de son existence, en réalité, eh bien je le redis, oui, fait honte à la France. Donc nous devons soutenir Israël dans ce moment plus que difficile. Et nous devons leur dire que notre soutien...
On peut soutenir Israël et se poser la question d'une frappe à Rafah et des conséquences qu'elle pourrait avoir sur le plan humanitaire.
C'est précisément ce que j'allais vous dire. Les deux ne sont pas incompatibles. Mais menacer de sanctions un pays allié comme Israël, qui traverse en ce moment ce qu'il traverse, je vous le dis, fait honte à notre pays. Cela n'empêche pas effectivement de dire qu'il faut laisser entrer davantage d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. C'est un autre sujet. Mais encore une fois, la position française, à mon sens, déshonore notre pays.
Alors, oui, Eric Tegner.
Pour rebondir sur ce que disait Régis tout à l'heure, je pense aussi qu'il y a la possibilité de la part de Netanyahou, d'une certaine façon, de forcer Joe Biden en le soutenant, en réactivant justement un peu le conflit contre l'Iran, parce que finalement, si l'Iran réplique et que Biden abandonne Israël, c'est toute la crédibilité américaine sur cette région qui, en fait, est abandonnée.
Mais donc c'est clair que Netanyahou aimerait embarquer les Américains.
Exactement,
dans une...
et c'est cette fuite en avant. Et en même temps, ce qui est extrêmement dangereux...
D'où la provocation peut-être de l'Iran.
C'est possible.
Mais bon, là, ce serait.
Mais c'est pareil, c'est une question de gros bras, de crédibilité des deux parties. Mais ce qui est dangereux, quand même, je tiens à le rappeler, c'est que sur la bande de Gaza, où l'objectif, c'est quand même la destruction du Hamas, aujourd'hui, pour un soldat du Hamas tué, on en crée deux autres. Parce que plus le temps passe, plus ces enfants, etc., demain, vont être complètement radicalisés contre l'Occident. Ça, il faut le prendre en compte. Notamment parce que derrière, ça va se retourner contre nous à un moment donné.
Je rappelle que le Hamas examine une proposition de trêve en trois étapes, dont la première prévoit un cessez-le-feu de 6 semaines. Cette première phase prévoit également la libération d'otages israéliens en échange de 800 à 900 Palestiniens détenus en prison en Israël, l'entrée de 400 à 500 camions d'aide humanitaire par jour et le retour chez eux des habitants du nord de la bande de Gaza déplacés par la guerre. Mais la question, c'est est-ce que les otages sont vivants? On nous parle de près de 140 otages qui seraient toujours retenus dans les tunnels du Hamas. Jusqu'à présent, le Hamas est incapable de prouver qu'il détient encore des otages vivants. Le président de la Knesset, et c'est plutôt rassurant, lui est persuadé qu'au moins la moitié de ses otages est toujours vivant, toujours tout à l'heure face à Laurence Ferrari.
Nous faisons tout ce que nous pouvons pour les libérer et nous le faisons ça avec de deux manières. Premièrement, il y a un vecteur militaire et deuxièmement, il y a un vecteur diplomatique. Et nous pensons que en exerçant ce type de pression, nous pouvons vraiment mettre le Hamas contre le mur pour qu'ils finissent par avoir un accord avec nous. Alors sur ces 33 otages, nous savons que certains sont vivants et que d'autres sont morts. Nous pensons que plus de la moitié sont toujours vivants, pas bien plus que la moitié, et non pas la grande majorité, mais en tout cas la majorité. C'est ce que nous pensons et nous opérons comme cela.
Information primordiale communiquée donc par le président de la Knesset. C'est vrai qu'on attendait des preuves. Une voix officielle comme celle-là peut rassurer, même s'il ne parle que d'une grosse moitié. Ça voudrait dire évidemment qu'on pourrait craindre le pire. Il faut y aller vers ces négociations où Israël doit rester ferme et ne pas négocier avec les terroristes qui ont effectué ce pogrom du 7 octobre dernier.
Les familles des otages et toute la communauté, évidemment, pousse pour que l'accord aboutisse. Cet accord, il est dans les starting blocks. Ça fait des semaines qu'il y a une négociation autour du Qatar avec l'Égypte, Israël et le Hamas pour que justement cette libération. Alors les conditions changent, etc., fluctuent. Parfois le Hamas refuse. Ensuite c'est Israël. Enfin c'est très très compliqué. Mais en tout état de cause, il n'y a pas de rupture dans l'idée, dans l'hypothèse d'une libération. Et il faut imaginer que, je pense que aujourd'hui, ce qui reste des otages, parce que évidemment, quand on voit le
tapis de bombe... Ils ont pas mal de militaires.
Oui, il y a beaucoup de militaires. On les a un peu oubliés parce que ils ont été capturés donc dès le 7 octobre. Ensuite, on a mis surtout l'accent sur les drames et les civils. Et il y a eu ces libérations. Et il n'y a pas eu de militaires qui ont été libérés par le Hamas. Donc,
on savait que ce serait les derniers à être libérés.
Bien sûr, bien sûr.
On suivra évidemment comme on le fait fait depuis six mois les prochains développements. Je rappelle donc cette menace forte de l'Iran sur Israël, comme le communique la Maison-Blanche notamment, qui met en garde d'ailleurs ce soir de nouveau l'Iran à propos de potentielles attaques contre Israël. Et puis je vous donne l'une des dernières dépêches également sur la question qu'on a pu recevoir. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, demande à la Chine également de dissuader l'Iran de toute attaque contre Israël. Il y a un commentaire à apporter sur cet appel à la Chine de la part des États-Unis.
Ça veut dire que les États-Unis reconnaissent de facto que la Chine a un poids de plus en plus considérable dans la diplomatie internationale. Ça, bon, c'est sûr. Voilà, ils peuvent, en effet, parce que c'est vraiment le partenaire économique numéro un de l'Iran. Donc,
voilà ce que l'on pouvait dire sur la situation actuelle au Proche-Orient, qui n'a rien de réjouissant et qui peut en inquiéter plus d'un. En effet, menace très sérieuse des Iraniens. On suivra tout ça. Le procureur, retour ici en France avec cette affaire qui nous a tenu en haleine hier, ce drame à Bordeaux. Et le procureur de Bordeaux a tenu une conférence de presse pour expliquer ce qui s'est passé sur les bords de la Garonne hier soir. Un individu, je le rappelle, vêtu d'un camis, armé d'un couteau, a attaqué deux hommes qui consommaient de l'alcool, deux Algérien. L'un d'entre eux est mort, l'autre a été blessé, l'assaillant a été abattu par la police. La procureure de Bordeaux a donc détaillé les faits aujourd'hui en conférence de presse. Écoutez ce long extrait.
Karat Salem est né le 8 février 1998 et Bouach Daoud, né le 21 mars 1987, se trouvait sur les pelouses à proximité du miroir d'eau et consommait de l'alcool. Ils étaient invectivés aux alentours de 19h30 par un individu pour des raisons a priori liées, selon les premiers témoignages et plusieurs témoignages, à leur consommation d'alcool. Le mis en cause, décrit comme porteur d'un camis et d'un keffier couvrant son visage, ne laissant voir que ses yeux, frappait dans un premier temps les deux victimes à coups de poing, puis il s'éloignait. Ces dernières se relevaient, puis lançaient des canettes de bière en direction de leur agresseur, lequel revenait alors vers elles, sortait un couteau à cran d'arrêt et les poignardait tour à tour. L'auteur des coups de couteau s'éloignait ensuite en direction du pont de pierre et un témoin contactait les forces de l'ordre et suivait l'agresseur. À proximité du pont de pierre, un équipage de trois policiers de la CDI qui sortait d'une mission de sécurisation à proximité des faits captait le signalement de l'auteur sur les ondes et intervenait dans les minutes suivantes alors que le mis en cause cheminait sous le pont de pierre. Cet équipage descendait au bord de la berge par des escaliers, demandait au mis en cause de lâcher son arme à plusieurs reprises, quand le suspect changeait brutalement de direction et se dirigeait vers eux, bras en avant et couteau à la main. Devant l'attitude menaçante de l'assaillant, l'un d'entre eux faisait alors usage de son arme, type fusil d'assaut HKG-36, et neutralisait l'agresseur.
Une attaque sur fond de religion, Eric Tegner, un homme vêtu d'un camis et d'un keffier qui s'attaque à ces deux Algériens parce qu'ils sont en train de boire de l'alcool le jour de la sortie du Ramadan. Alors, la procureure a rappelé que le motif terroriste n'était toujours pas retenu. Il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Quelqu'un qui essaye d'assassiner une autre personne pour des motifs religieux, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas du terrorisme ?
Vous savez, ça fait plusieurs années que de plus en plus, ils reconnaissent la notion de terroriste le plus tard possible au niveau de nos autorités judiciaires. Donc ça semble assez logique vu la politique qu'ils mènent. Seulement, quand on écoute justement ce que dit la procureure, on voit que c'était un individu qui savait exactement ce qu'il faisait. On le voit aussi lorsqu'il s'est dirigé sur un air déterminé face aux policiers. Ils ont expliqué que c'était un peu comme s'il allait commettre une forme de suicide. Donc bien entendu qu'il y a tous les caractéristiques qui montrent que c'est une forme de terrorisme en fait. Et ces personnes-là, la différence près, c'est qu'ils ne le vivent pas comme du terrorisme. Ils le vivent simplement, et c'est une nouveauté aujourd'hui. Il ne s'est pas dit « ce soir, je vais commettre un acte terroriste », comme il a pu se passer en 2015 au Bataclan, pour terroriser des populations. Donc c'est une nouvelle forme de terrorisme aujourd'hui, qui consiste tout simplement à faire une forme de police des mœurs religieux, mais en étant prêt à aller justement jusqu'à l'assassinat, avec la différence aussi que cette fois-ci, ils s'attaquent d'abord à des personnes musulmanes. Ils vont juger justement qu'il faut que ces musulmans, notamment dans l'ère du Ramadan, soient radicalisés. Bien sûr, mais ils partent du principe qu'ils sont algériens. Et on rentre aussi dans un cas de figure.
Ils partent du principe qu'ils sont musulmans parce qu'algériens.
Bien sûr, et ils le sont. On rentre dans le cas de figure aussi de Bordeaux. Hein, Bordeaux où il y a 20 ans, on n'aurait pas du tout connu ça, où le voile dans la rue a commencé à ressurgir justement après les attentats de 2015, où justement l'islam marocain, qui est beaucoup plus modéré, est devenu aujourd'hui minoritaire, et où il y a près d'une centaine de cultes, de centres islamiques aujourd'hui dans Bordeaux. Donc c'est dans ce contexte-là, aujourd'hui, de communautarisation, que justement cet acte s'est déroulé hier soir.
Oui, Johan.
Écoutez, je crois que le fait que ce soit qualifié ou non de terrorisme est un peu anecdotique, dans le sens où la volonté de cet homme de 25 ans était de toute évidence de semer la terreur et en plus d'imposer son mode de vie, d'imposer la vision qu'il a, lui, de sa religion et de la société dans laquelle il voudrait vivre, de la société de laquelle il provient, par ailleurs. Donc cette volonté-là, on constate qu'elle est de plus en plus prégnante dans notre pays. On a, tout au long de cette semaine, cessé de commenter des enterrements de personnes décédées à cause de coups de couteau. On a
dans une séquence assez effrayante et on peut faire un parallèle assez évident.
On a évité le pire affaires. Avec la petite Samara qui, elle aussi, a été victime de cette police des mœurs parce qu'elle est musulmane, parce qu'elle ne portait pas le voile, parce qu'elle avait les cheveux teintés, etc. Donc il est évident que ceux qui pratiquent un islam, disons rigoriste si ce n'est davantage, tentent dans ce pays d'imposer par endroit et de plus en plus fréquemment, me semble-t-il, leur vision qu'ils ont de leur religion et de la société. Ça n'est évidemment pas compatible avec notre mode de vie là, donc je redis ce soir qu'il y a effectivement dans ce pays un conflit de civilisation qui me semble de plus en plus important.
La procureure a détaillé ce qu'elle pouvait dire du profil de l'assaillant également qui a été abattu par la police.
En ce qui concerne les mobiles de l'agresseur, malgré son état de santé particulièrement fragile au regard des blessures infligées, l'audition de M. Saleh Karat à l'hôpital a permis de recueillir ses premières déclarations. Il en résulte qu'hier soir, l'agresseur, qu'il ne connaissait pas, se serait approché de son ami, Rachid Bouab, et s'en serait pris à lui avant de leur reprocher à l'un et à l'autre, dans un français approximatif, de boire alors que c'était l'Aïd. Les deux amis lui répondaient « ça ne te regarde pas » et à ce moment-là, l'auteur leur assénait des coups de poing. L'auteur est à ce jour en cours d'identification. Il serait d'origine afghane et âgé de 25 ans.
Voilà ce que nous disait la procureure tout à l'heure. Entre-temps, et notamment grâce à nos confrères d'Europe 1, de différentes sources, il ressort, mais on attend confirmation, que cet homme aurait obtenu en 2021, cet homme afghan de 25 ans, donc aurait obtenu en 2021 le statut de réfugié. Donc il aurait obtenu l'asile politique en France. Commentaire, Raphaël Steinville.
Peut-être la première chose, c'est que fuir l'Afghanistan, demander le statut de réfugié ne fait pas de vous, parce que vous fuyez les talibans, un musulman modéré, acceptant les valeurs de la République. Ce n'est pas le cas, bien au contraire. Et en fait, on voit à travers cette politique généreuse de la France qu'aujourd'hui, un certain nombre de ces personnes venues et acceptées dans leur droit à pouvoir bénéficier de l'asile se retournent contre nous, se retournent aussi contre ceux, et ça a été très bien dit par Éric Tegner notamment, qui, parce qu'ils sont soi-disant d'une même communauté, mais il y a une concurrence dans l'islam entre finalement des musulmans pratiquant un islam modéré et ceux qui ont une vision intégriste, radicale de l'islam. Et il y a une sorte de continuum, moi, qui me frappe. C'est-à-dire que si on prend sur un temps court entre
Samara... Et ces musulmans modérés, aujourd'hui, sont une cible pour les plus rigoristes.
Aziri-Châtillon, on a pu parler de crimes d'honneur jusqu'à maintenant Bordeaux, où parce que des musulmans consommaient de l'alcool dans la rue, ils en sont une cible, des cibles. Et juste un dernier mot, si vous vous souvenez de l'attentat contre ce policier après Charlie Hebdo, ce policier musulman qui avait été abattu de sang-froid par les frères Koulibaly, qui avait justement professé le fait qu'il était comme un frère, ça n'avait pas suffi, comme si aux yeux de ces musulmans radicaux, c'était des apostats, le simple fait d'épouser et d'avoir pris l'uniforme français faisait d'eux des mécréants, des traîtres.
On continue évidemment et on va entendre d'autres éléments de la procureure, notamment sur le fait que cet homme s'était déjà retrouvé dans une précédente altercation plusieurs minutes avant ce crime. On va écouter tout cela juste après le rappel de l'actualité. D'ici une petite minute, on se retrouve. Donc Maureen Vidal d'abord.
Un milliard d'euros, c'est le coût des émeutes de juin dernier en France qui ont suivi la mort de Naël, d'après un rapport sénatorial qui chiffre très précisément les dégâts causés. En 11 jours d'émeutes, près de 50 000 émeutiers ont été dénombrés. Plus d'un millier de personnes avaient été blessées, dont 782 agents des forces de l'ordre et 16 400 sinistres ont été déclarés aux assurances. Le Conseil constitutionnel refuse le projet de référendum sur l'immigration demandé par les Républicains. Les sages ont jugé la manœuvre non conforme à la Constitution. Pourtant, dans un sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD, 69% des Français sont favorables à un référendum sur la politique migratoire. Éric Ciotti et le Rassemblement national demandent une révision constitutionnelle pour permettre un référendum sur l'immigration. Enfin, la campagne de déclaration des revenus 2023 est ouverte dès aujourd'hui et jusqu'à juin. Pour certains, les Français peuvent effectuer leur déclaration d'impôt sur le revenu. Une nouveauté cette année, il est désormais possible de la réaliser sur smartphone et tablette. De son côté, Emmanuel Macron, en déplacement en Dordogne, a balayé l'hypothèse d'une hausse des impôts.
Merci beaucoup Maureen Vidal, on vous retrouve dans 30 minutes. Yoann Uzaï, dans un moment où la question de l'immigration est centrale, à quelques semaines des élections européennes, il y aura forcément une grosse instrumentalisation politique autour de cette affaire, vu évidemment les informations qui nous parviennent depuis quelques heures.
Une instrumentalisation ou pas, parce que le rôle de l'opposition est quand même dans ces cas-là de poser les questions et de poser les bonnes questions, notamment au gouvernement. Parce que ce qui est exaspérant et insupportable, me semble-t-il, c'est quand même de constater que nous créons nous-mêmes les conditions de notre propre malheur. La France n'a évidemment pas vocation à accueillir l'ensemble des Afghans qui en feraient la demande. Parce que si nous considérons qu'ils sont de fait bénéficiaires du droit d'asile parce qu'ils viennent d'Afghanistan, évidemment, vous imaginez bien que...
Qu'est-ce que c'est ? C'est une crise de l'accueil ou une submersion migratoire ?
Non, mais il y a une crise de l'accueil qui est manifeste. La submersion migratoire peut-être viendra-t-elle. On voit en tout cas que la pression migratoire est de plus en plus forte. Et quand cette pression vient de pays comme l'Afghanistan, où il est évident que les habitants de ce pays-là n'ont pas du tout le même mode de vie que nous, les mêmes coutumes que nous, les mêmes pratiques que nous, que leur pratique de la religion n'est évidemment pas compatible avec celle que nous connaissons en France, avec les lois françaises, avec les valeurs de la République, cet islam que je qualifiais de rigoriste, mais qui va peut-être même au-delà. Et il n'est évidemment pas compatible avec notre mode de vie. Donc, encore une fois, il est évident que nous n'avons pas vocation à accueillir l'ensemble de ces populations-là. Et ça pose par ailleurs la question de l'étude des demandes d'asile. Si ces demandes d'asile étaient étudiées à l'extérieur des frontières européennes, déjà, ça faciliterait les choses et ça nous éviterait de connaître un certain nombre de problèmes. Surtout que nous savons que lorsque les demandeurs d'asile viennent faire leur demande sur le sol français ou dans un pays européen, une fois qu'ils sont ici, que leur demande soit acceptée ou refusée, ils restent, puisque nous ne pouvons pas les renvoyer en Afghanistan. Donc, dans tous les cas, vous voyez bien...
C'est un pays en guerre.
Absolument. Donc, la France, dans tous les cas, est piégée.
Certains Afghans peuvent présenter une menace réelle. C'était le patron de Frontex à l'époque qui disait ça lorsque les talibans reprenaient le pouvoir et qu'il y avait cette vague d'Afghans qui pouvait arriver en Occident. Ils prévenaient, ils peuvent présenter une menace appartenant parfois à des organisations criminelles, notamment des réseaux de passeurs, peuvent être instrumentalisés par des organisations terroristes. C'est très difficile de trier le bon grain de l'ivraie.
Bah, ce qui est catastrophique avec l'Afghanistan, c'est que l'Afghanistan, c'est pas simplement les talibans qui reprennent le pouvoir en 2021, c'est aussi tout un tissu social fait autour de mafias qui ont été alimentées d'ailleurs par de l'argent occidental pendant des années, pendant l'occupation américaine. Vous aviez des seigneurs de guerre qui ont vécu grassement et qui possèdent évidemment des milices privées. Et vous avez dans l'Afghanistan, c'est un pays qui est en guerre, on peut dire qu'aujourd'hui il l'est moins, mais en gros depuis 40 ans. Donc si vous voulez, vous avez trois générations de personnes qui n'ont connu que ça, qui n'ont connu que la guerre. Donc pour qui les armes, c'est c'est tout à fait dans le domaine du quotidien. Tuer des gens, la vie ne vaut absolument rien en Afghanistan. D'abord, on meurt très jeune dans ce pays. C'est un pays qui a un taux de vie. Enfin, je veux dire, on vit pas vieux et souvent on meurt de mort violente. Et voilà. Et la question, ce que disait Johan est tout à fait exact, c'est-à-dire que la question des mœurs aussi est assez terrible parce que le choc entre le style de vie prôné aujourd'hui par les talibans et qui existe en Afghanistan et notamment dans les campagnes, où la charia est imposée comme un mode de vie classique.
Mais ces Afghans qui arrivent en France, ils sont amenés à s'intégrer à notre société. Oui, ils sont supposés adopter les codes du pays dans lequel ils entrent.
Oui, mais on ne peut pas s'intégrer comme ça du jour au lendemain. Il n'y a pas un logiciel qui permet à une personne d'arriver en Occident qui dit on appuie sur un bouton.
Des gènes volontés peut-être.
Non, mais moi je regardais, je viens de repérer un tweet de Christine Kelly justement qui dit que.
Notre chère consoeur que l'on embrasse.
Voilà, qui nous dit le tueur au couteau de Bordeaux à propos du statut de réfugié, donc il aurait été, voilà ce qu'on sait. Mm-hmm. En juillet 2023, l'agresseur, alors lui était d'origine syrienne, des bébés à Annecy, oui. Il avait eu aussi un statut de réfugié obtenu en Suède. Le tueur au couteau d'Angers en 2022.
On crée les conditions de notre propre mise en danger.
Et à Villeurbanne aussi, un Afghan de 33 ans qui avait eu le statut de protection subsidiaire, donc asile accordé. Et souvent, ces gens-là jouent
mais
sur le fait qu'ils viennent...
Mais paradoxalement, c'est aussi l'honneur d'un pays comme la France d'accueillir et donner droit d'asile à des personnes qui sont en danger dans le pays d'où
ils viennent. Je termine juste. Ces gens-là savent pertinemment qu'en jouant la carte du discriminé, du réfugié politique, du persécuté par les talibans, ils vont obtenir plus facilement et quasiment automatiquement ce statut de réfugié. Et c'est là où il y a un vrai problème, parce qu'on ne filtre pas et on ne connaît pas le passé de ces gens.
Je voudrais juste, Eric, je vous fais réagir qu'on entende ce dernier extrait de la procureure, parce que donc l'assaillant, et c'est ce qu'elle nous a appris, la procureure de Bordeaux cet après-midi, aurait eu, avant de commettre ce crime et de blesser mortellement l'une de ses deux victimes, aurait eu auparavant une première altercation similaire avec d'autres individus en évoquant également la fête de l'Aïd qui marque la fin du ramadan. Écoutez.
Deux nouveaux éléments méritent d'être évoqués ce soir. Le premier, c'est un nouveau témoignage recueilli dans l'après-midi qui fait état d'une première altercation hier soir, juste avant les faits, suivie de violences entre l'assaillant et deux autres individus pour un motif a priori similaire. Ainsi, l'auteur aurait pris à partie deux individus parce qu'ils buvaient du rosé en ce jour d'Aïd. S'en serait suivi alors un coup de poing et un coup de coude avant que l'agresseur n'exhibe un couteau en leur demandant de venir se battre. Il serait finalement parti et aurait poursuivi son chemin en direction du miroir d'eau. Les auditions des témoins et victimes sont en cours pour corroborer cet épisode préalable aux faits criminels.
C'est ce qu'on disait il y a quelques instants, Eric. Les musulmans qui veulent vivre leur religion de manière modérée deviennent des cibles dans ce pays aujourd'hui.
Bien sûr, hein, il faut rappeler aussi que énormément d'attentats dans le monde islamiste sont commis d'abord contre des musulmans qui sont les premières victimes du terrorisme. Moi, je voudrais simplement m'inscrire en faux sur une idée qui a été mise sur plateau, notamment par Johan, sur le fait que ça serait aujourd'hui la solution de dire que les demandes de droit d'asile devraient être faites à l'étranger. Je pense que c'est une fausse bonne idée si on ne conditionne pas parallèlement la modification de la réforme du droit d'asile. Je vais vous prendre un cas très concret, parce que j'étais récemment à Mayotte, où on voit des arrivées d'Africains, notamment de RDC. En RDC, aujourd'hui, il y a énormément de conflits armés. C'est-à-dire que leurs demandes de droit d'asile, elles vont être acceptées eu égard au droit d'asile actuel, tout comme ceux qui demandent en Afghanistan le droit d'asile. Et dans le fond, aujourd'hui, la seule chose qui permet malgré tout de filtrer les arrivées, c'est que les traversées sont chères et les traversées sont dangereuses par l'Atlantique, par la Méditerranée. Et donc, c'est déjà un certain filtre. Il ne faut pas croire. D'un côté, il y a énormément de monde qui arrive. Mais moi, je l'ai vu lorsque j'ai fait les différentes routes migratoires. Il y en a énormément qui me disaient « j'ai trop peur de traverser » ou alors « je n'ai pas l'argent pour le faire ». Si on commence à dire « vous pouvez faire vos demandes de droit d'asile dans vos pays », croyez-moi, il y aura des millions et des millions d'Africains ou d'étrangers qui vont arriver sur notre sol. Et il ne faut pas se retrouver aussi dans une réforme où finalement, on aurait... d'un côté, cette réforme, mais non pas la réforme du droit d'asile, qui, elle, est constitutionnelle. C'est la problématique. Et aujourd'hui, on a toujours l'impression qu'on dit qu'il faut lutter contre l'immigration légale, mais pas la réforme du droit d'asile. Et c'est-à-dire qu'il faut simplement expliquer que d'abord, lorsque quelqu'un fait une demande de droit d'asile en France, d'abord, en fait, si un pays frontalier peut l'accueillir, eh bien, ça doit être prioritaire de ce côté-là. On n'a pas à faire venir des gens d'Afghanistan chez nous. Et il faut être capable de dire qu'on ne peut pas accueillir en France, c'est la logique de quotas. On doit avoir des quotas sur les réfugiés politique. C'est fondamental de le faire et c'est d'ailleurs ce qui était proposé d'un point de vue constitutionnel par les Républicains, parce que sinon ça ne s'arrêtera jamais.
Moi, la proposition de référendum a été rejetée par le Conseil constitutionnel, on en parlera juste après.
Par rapport à ce qui vient d'être dit, par une précision sur l'Afghanistan en tant que tel, vous ne pouvez pas aujourd'hui, depuis Kaboul, venant d'une province d'Afghanistan, émigrer en France et obtenir un statut de réfugié. Il faut que vous passiez soit par le Pakistan, soit par l'Iran. Et là, vous vous inscrivez au consulat de France à Peshawar ou à Téhéran. et on étudie votre demande pour que vous puissiez venir en France. Donc quelque part, on a déjà, nous, une responsabilité dans le fait d'accorder ce statut de réfugié ou non à ces personnes. On ne peut pas y aller directement. Maintenant, il y en a qui viennent, évidemment, par des routes migratoires diverses et assez connues et qui choisissent d'arriver clandestinement. Mais pour l'obtention du statut de réfugié, ça ne peut pas se faire par l'Afghanistan parce que, tout simplement, il n'y a pas de reconnaissance du gouvernement taliban, donc il n'y a pas d'échange diplomatique ou alors au minimum entre la France et l'Afghanistan.
On a bien compris qu'à l'aune de ce que nous a appris la procureure aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui se posent. Une première qu'on vient de se poser sur les réfugiés, le droit d'asile, les Afghans sur notre sol qui pour certains peuvent représenter une menace. Et puis à travers cette affaire, on est aussi dans une séquence que l'on vit malheureusement depuis plusieurs semaines, que certains, et Johan a commencé à le faire il y a un instant, voudraient appeler un choc des civilisations, que des personnes comme Gilles Kepel nomment le djihadisme d'atmosphère. Je voudrais que vous voyez ce tweet d'Amin El Khatmi qu'on reçoit souvent sur ces plateaux également, qui a eu un tweet très fort, je trouve, aujourd'hui, cet après-midi. Tu veux vivre en femme libre, tu finis dans le coma. Il fait allusion évidemment à Samara à Montpellier. Tu parles à une fille, ses grands frères te plantent et te tuent même, aurait-il pu rajouter, c'est Chemchedine à Viry-Châtillon. Tu bois une bière le jour de l'Aïd, un Afghan en turban et camis te tranche la gorge à Bordeaux. Donc la France, sa tour Eiffel, ses talibans, écrit-il cyniquement, Raphaël Steinville.
Je pense qu'il a raison. Peut-être que trop tardivement, on s'aperçoit qu'il y a sur notre sol, depuis des années, un processus qui est engagé, qui fait qu'un certain nombre de personnes, faute d'avoir été assimilées, faute ou à minima même d'avoir été intégrées, aujourd'hui, ont prospéré dans l'idée, pas seulement de la haine de la France, mais qu'il fallait imposer leur culture, leurs mœurs à d'autres, à commencer par ceux qui leur sont les plus proches, ceux qui sont arrivés issus de la deuxième, troisième génération, mais qui seraient dans une sorte d'entre-deux, comme s'ils étaient aujourd'hui sommés de choisir entre la France et puis un islam radical.
Mais ça fait des dizaines d'années que c'est inscrit dans la société.
Oui, c'était inscrit, sauf qu'aujourd'hui, on en voit des signes visible. C'est un djihad armé, c'est plus seulement un djihad d'atmosphère comme peut le décrire Gilles Kepel, mais quelque chose qui relève d'un cran supérieur encore, je pense, comme si certains s'autorisaient aujourd'hui, parce qu'ils sont peut-être davantage en nombre, je n'en sais rien, mais en tout cas à passer à un étage supérieur.
Moi, je ferai une différence quand même entre vous parlez de justement de la des propos de Gilles Kepel sur le djihad d'atmosphère. Mmh. Il faut voir quand même qu'il y a une différence aujourd'hui, il me semble, qui est en train d'apparaître et qu'elle concerne les musulmans de France. C'est-à-dire, vous avez les djihadistes d'un côté, ceux qui nous ont attaqué au Bataclan, ceux qui ont attaqué Charlie Hebdo, pour qui le mode de vie français, nous sommes une terre de conquête et cette terre, elle doit être conquise par l'islam radical. C'est-à-dire que nous devons être soumis à eux. Et puis vous avez ce type d'attitude ou d'autres attitudes comme cette collégienne dans le Bas-Rhin qui a été molestée par trois de ses camarades de classe parce qu'elle ne respectait pas le ramadan. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un phénomène qui me semble plus nouveau, c'est-à-dire une tentative d'encadrement par l'islam radical de la communauté et des communautés musulmanes de France, c'est la jeune Samara.
La police des mœurs, voilà, la police de la charia
et
qui en culotte court pour les
voilà, et que chacun s'investisse, c'est-à-dire que vous avez des individus comme ça qui décident d'aller, faire eux-mêmes la police des mœurs, d'appliquer justement eux-mêmes la charia sur leur propre communauté. Et je pense que c'est différent. Je pense qu'il y a la volonté de conquête et en même temps, il y a la volonté de dire aux musulmans de France, attention, si vous allez dans le sens de la République et de la laïcité, nous vous avons à l'œil et vous paierez. Voilà.
Les modérés sont des traîtres. On serait donc face à une violence, pour ne parler que de Bordeaux, une violence programmée, motivée, avec cette pression religieuse de plus en plus forte. Éric Tecner, un dernier mot.
Oui, parce que les islamistes aussi profitent d'un terreau favorable en France, avec une arrivée d'une immigration très importante, avec une communauté musulmane qui est très puissante. Et donc aujourd'hui, ils se disent c'est le moment justement de réactiver un petit peu ça, de radicaliser. On l'a vu aussi sur la mère de Samara, hein, qui s'est sentie obligée de lire ce texte et de dire dans le fond, c'était une bonne musulmane. musulmane, un peu comme si pourquoi la taper alors qu'elle fait ses 5 prières par jour, ce qui était assez surprenant. Dans le fond, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on pense trop l'islamisme à travers le terrorisme d'un côté, c'est-à-dire effectivement le Bataclan, etc. Alors qu'aujourd'hui, on n'est plus sur une police des mœurs. Mais en même temps, il y a aussi la problématique qui est que aujourd'hui, on ne parle pas de ces affaires si jamais il n'y a pas une Samara qui est tabassée. On ne parle pas de cette affaire si jamais, hier, cette personne n'aurait pas été agressée physiquement. Comme si, en fait, il n'y avait pas de problème si il n'y avait pas de passage à l'acte ou d'agression physique. Derrière, il y a énormément d'actes d'influence islamiste. On sait que les frères musulmans aujourd'hui sont les premiers à dire attention, ne passons pas à l'acte, ayons plutôt des méthodes justement d'influence. Le problème idéologique derrière qui sous-tend les attaques physiques est bien plus dangereux et bien plus nocif, et on refuse justement d'en parler. Et on voit très bien des élus de gauche, la France insoumise, etc., arrivent très bien à condamner ce type d'attaque parce que ça passe à l'acte. Mais dans le fond, cette radicalisation, ils l'acceptent dans le pays tant que c'est pacifiste. Et c'est ça la problématique. On le voit au Royaume-Uni, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à penser l'islamisme en dehors d'un cadre de violence.
Et c'est extrêmement pervers parce que les frères musulmans ne prônent pas la violence. C'est leur grande différence avec
ils
les wahhabites.
Ils testent la société pour voir à quel point elle peut être imprégnée et ça fonctionne plutôt bien.
C'est bien plus dangereux.
On en paye le prix chaque jour, en tout cas le prix d'une forme de lâcheté, diront certains. Dans ce contexte, pour avancer dans nos thématiques, Yoann Uzaï, je me tourne vers vous, puisque ce sondage CNews, CSA pour CNews, nous rappelle aujourd'hui que près de 7 Français sur 10, 69% exactement, sont favorables à un référendum sur la politique migratoire de la France. Quelles leçons est-ce qu'on en tire ?
Eh bien que les Français considèrent que l'immigration de masse telle que nous la connaissons aujourd'hui représente désormais un problème pour la France. Tous les sondages le montrent, les Français le disent très majoritairement, ils veulent moins d'immigrés sur notre sol. S'ils veulent voter, c'est évidemment pour faire entendre ce message. Ce qui est flagrant dans ce sondage, si on entre à présent dans les détails, c'est que la quasi-totalité des électeurs de droite sont favorables à ce référendum, mais 56% des électeurs de gauche en veulent également un. Même les électeurs de la France insoumise sont à 53% favorables à cette consultation des électeurs. Pour répondre à la demande des Français, les Républicains avaient donc déposé une demande de référendum auprès du Conseil constitutionnel, demande rejetée aujourd'hui par les sages. Écoutez Patrick Stefanini, ex-secrétaire général au ministère de l'Immigration et de l'Intégration.
Une majorité de Français souhaiterait que ces questions soient tranchées par référendum. Et malheureusement, une partie de la classe politique qui a oublié les leçons du général de Gaulle se méfie du référendum. Je rappelle qu'en France, on n'a pas fait de référendum depuis des années et que de surcroît, tel qu'est rédigée notre Constitution, il ne serait pas possible aujourd'hui de faire ce qu'on appelle un référendum de l'article 11. C'est un sujet sur lequel je pense que nos responsables politiques vont devoir évoluer.
Un référendum sur ce sujet n'est donc a priori pas pour demain. Si les Français demandent à être consultés sur le sujet, c'est que les Français ont compris qu'une partie de l'immigration génère dans notre pays des problèmes d'insécurité. Le lien a d'ailleurs été fait par Gérald Darmanin, mais également le président de la République lui-même.
Les Français...
Oui, c'est terminé.
Ah, c'est fini, oui, pardon, c'est d'accord, fini. Parce que j'avais plus de textes sur mon... D'accord, autant pour moi, cher Yoann, merci beaucoup. Il y a cette proposition également de référendum qui a été rejetée par le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Je voulais en dire un mot. Oui. Il est à côté de la plaque, le Conseil constitutionnel, vous voulez réagir?
Alors moi, ce que je veux dire, c'est au niveau du fonctionnement juste, je fais un truc très rapide, du fonctionnement des institutions et justement de ce recours au référendum, qui était quand même une des valeurs cardinales du gaullisme, prônée par le général de Gaulle, maintes fois, pour essayer justement qu'il y ait un dialogue direct entre le peuple et ses dirigeants, et que le peuple se soit associé aux décisions de la nation. Je constate simplement une chose, 27 mai 2005, c'est la dernière fois qu'il y a eu un référendum sur la Constitution européenne, c'était il y a 19 ans. Voilà.
En fait, tout est fait dans cette histoire.
Un référendum qui, par ailleurs, n'a pas été respecté.
En plus. Mais tout est fait dans les conditions du RIP pour qu'il n'y ait jamais de référendum dans ce pays, en fait.
Et vous savez, on est à la tête de certaines de nos institutions, des socialistes qui, aujourd'hui, pourtant, ne représentent rien. Laurent Fabius, aujourd'hui, prend des décisions qui sont ultra idéologiques. Et moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est, vous savez, il y a cette question aujourd'hui du remplacement du président du Conseil constitutionnel. Et dans le fond, quelle est la seule question qui prévaut ? C'est qui nommer ? pour empêcher, en cas de victoire de Marine Le Pen en 2027, les réformes qu'elle souhaite. Voilà la réalité aujourd'hui du Conseil constitutionnel en France, qui normalement était là pour protéger justement l'état de droit et d'abord le droit des Français. Mais aujourd'hui, il nous empêche de nous prononcer tout simplement, même s'il y avait demain un nouveau président de la République qui voudrait faire des réformes sur l'immigration, eh bien d'agir alors que les Français le demandent. Et ça, c'est proprement scandaleux.
Il était illégal, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on demande au Conseil constitutionnel? Parce que c'est les députés qui font les lois dans ce pays. Alors, ce qu'on demande au Conseil constitutionnel, c'est juste de nous dire, est-ce que cette proposition de loi, elle respecte le droit ou est-ce qu'elle ne le respecte pas?
Les Républicains ont vraiment travaillé cette question. Moi, j'en ai parlé avec énormément, notamment François-Xavier Bellamy, qui pensait que ça allait passer. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'il le travaille, notamment Guillaume Larrivé, qui est un professionnel justement du droit constitutionnel, qui a pris énormément de temps. Les Républicains, on sait très bien qu'ils sont sérieux. Ils ont attendu avant de faire cette proposition, parce que et d'ailleurs cette proposition, elle n'était pas globale. La question n'était pas de dire
récupérer ce qu'ils ont perdu pendant la loi immigration.
Surtout que c'était pas une question. Ce qu'ils proposaient, c'était pas plus ou moins d'immigration. C'était de pouvoir se caler sur la question notamment des aides sociales sur l'immigration, parce qu'ils pensaient justement que là-dessus, il y avait une fenêtre de tir. Donc c'était complètement possible. Bon. Mais aujourd'hui, derrière, le Conseil constitutionnel, il l'a refusé. Et ça donne aussi des arguments à Marine Le Pen, qui dit clairement que la seule onction qu'il faut, c'est l'onction présidentielle en 2027.
Les Français veulent ce référendum, mais ils ne l'auront vraisemblablement jamais. Johan, oui.
Oui, là, les sages ont dit une chose. Ils ont dit que la réforme voulue par les Républicains, en tout cas le fait de soumettre ces questions à référendum, si les Français avaient répondu oui, cela aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à la protection sociale des étrangers. Donc, il s'appuie bien sur la Constitution. En tout cas, il l'interprète, mais il s'appuie sur la Constitution. Il y a une solution, quand même, si on veut pouvoir réformer et parler d'immigration dans ce pays, c'est de réformer la Constitution, précisément. Puisque la Constitution est un frein, est une barrière au fait de changer mais radicalement notre politique migratoire, eh bien attaquons-nous à la Constitution et permettons que cette Constitution puisse déboucher sur un changement de politique migratoire. Un président qui a la volonté de le faire peut le faire.
D'autant plus qu'on a vu que Emmanuel Macron était parvenu à obtenir une large majorité pour constitutionnaliser l'avortement, alors que personne en France ne remettait aujourd'hui en cause ce droit. Et alors qu'il y a une majorité de Français aujourd'hui qui sont favorables à une révision de la Constitution pour en tout cas durcir les conditions d'accueil des immigrants illégaux, on voit que ça pose des problèmes infinis. Ce qui est très intéressant, c'est que effectivement le droit il s'interprète, et donc c'est bien une lecture politique qu'ont fait les sages de cette proposition de loi de LR sur ce référendum. Et il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que je pense qu'ils auront des comptes un jour à rendre devant les Français. C'est-à-dire que Laurent Fabius ne sait pas ce que c'est que l'immigration sauvage qui s'impose à un certain nombre de nos compatriotes. Il vit dans de beaux quartiers, dans un hôtel particulier probablement, comme un certain nombre de sages. Non mais c'est cette réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vivent protégés, ce que ne sont pas la plupart des Français.
Je vois juste qu'on entend un extrait de Jordan Bardella hier qui rappelait que pour le Rassemblement National et pour les Français, selon lui, l'immigration est une question existentielle, alors que, je le rappelle également, les eurodéputés ont voté en faveur du pacte asile et immigration hier, ce fameux projet de réforme de la gestion des flux migratoires et de la demande d'asile dans l'Union européenne. Écoutez Jordan Bardella.
À l'évidence, pour Emmanuel Macron et les institutions européennes, et c'est d'ailleurs pour cela que les Français doivent aller voter le 9 juin, pour eux, l'immigration n'est pas un problème, elle est un projet. Et je ne compte plus le nombre de déclarations du président de la République, comme évidemment des institutions ici européennes, qui encouragent cette immigration massive, parce que leur projet, précisément, c'est la submersion de l'Europe et c'est le remplacement de facto d'une partie de la population européenne par des populations qui viendraient d'ailleurs. Je pense que l'immigration est le défi existentiel le plus important qui se pose à nos sociétés, parce qu'il remet en cause notre sécurité, notre identité, évidemment la vitalité de nos services publics et l'équilibre des comptes publics, et que se dresse en face de nous un continent africain qui va passer d'ici à 20 ans d'1,2 milliard d'habitants à 2,5 milliards d'habitants.
Pour l'instant, en France, tout le monde entre et personne ne part, si je caricature.
Oui, et d'ailleurs sur ce pacte asile-immigration, il faut vraiment avoir conscience de ce que c'est. L'objectif n'est pas de restreindre l'immigration, mais de mieux la gérer. Moi, ce que j'avais vécu par exemple aux Canaries, c'est où je constatais qu'en fait, il n'y avait pas de frontières, que les gardes-côtes étaient là uniquement pour aller faire du sauvetage de bateaux. On n'a pas besoin d'aujourd'hui de SOS Méditerranée pour le faire. Ce sont les gardes-côtes qui le font. Et donc leur objectif, effectivement, c'est d'empêcher un Lampedusa au sens d'une arrivée massive de 8000 migrants qui ne sont pas gérés, qui du coup effraient la population.
Mais Lampedusa, c'est fermé dans deux ans, vous êtes au courant. Vous avez entendu Madame Hayé, la candidate Renaissance, techniquement,
elle n'a pas tort. Pourquoi? Parce que leur objectif, c'est quoi? Ils ne veulent pas un Lampedusa, parce que pour l'opinion, c'est catastrophique, parce que ça fait peur de voir 8000 migrants. Ils veulent ce que moi j'ai vu aux Canaries, c'est-à-dire des arrivées qui étaient extrêmement bien gérées, loin des populations. On les met dans des bus, puis dans des ferries, puis dans des avions. Ils arrivent en Espagne, on les répartit sur le territoire européen, on les met dans les campagnes et on ne les cantonne pas comme on l'a fait par exemple sur la région Île-de-France où on va les voir justement dans le métro, etc. Et c'est ça qu'ils ne souhaitent pas. Ils ne souhaitent pas effectivement Lampedusa demain. Mais le problème qu'il y a, c'est que même si un jour on a une présidente ou un président de la République qui veut faire ses réformes sur l'immigration, et on aura quand même des populations à qui qu'on aura naturalisées, à qui on aura donné des droits. Et ces personnes-là, on ne pourra pas les expulser. Donc c'est irrémédiable ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Lorsqu'à chaque fois Gérald Darmanin nous explique que dans le fond les émeutiers c'était des Français, ce n'est pas un problème d'immigration, mais bien entendu, parce que ce sont des personnes dont les parents, on ne les souhaitait pas en France. On les a fait venir, on leur a donné justement la nationalité française, et après on se retrouve obligé justement de garder ces populations, ce qui pose un problème culturel. Bien sûr, mais c'est toujours des questions économiques, vous savez, hein, la commissaire européenne Johansson explique très clairement aujourd'hui que pour une question de natalité aujourd'hui et aussi pour des questions économiques, parce que justement il faut de la main d'œuvre pas chère, ce qui est entre guillemets de l'exploitation complète et indigne, il faut faire venir des populations immigrées. Ça c'est totalement revendiqué aujourd'hui, et à l'époque on le disait, c'était vu comme complotiste.
Il nous reste 2-3 minutes avant de passer à notre prochain thème. Raphaël et Régis.
Oui, vous avez commencé en disant finalement, si je devais résumer les choses, c'est tout le monde rentre et personne ne sort. C'est si vrai qu'aujourd'hui la France, et c'est vous dire à quel point finalement on assiste à une sorte de grand déclassement de la France aujourd'hui accepte de retenir ces migrants qui voudraient partir en Angleterre contre des financements.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est ça en fait l'absurdité de notre système, c'est à tous les bouts du système, on est perdant.
Oui. Et moi, je rajouterais juste une chose par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que sur la question de l'Italie, puisqu'on a évoqué Giorgia Meloni, il faut jamais oublier que l'Italie, les immigrés ne bénéficient pas de la CAF, ne bénéficient pas des aides, du regroupement familial comme chez nous, de l'obtention de la nationalité. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas, comme en France... Or, justement, ce pacte asile-immigration va permettre justement de choisir quelque part... d'être répartis et de choisir. Et évidemment, ils iront là où c'est le plus avantageux et où ils peuvent rester. C'est important de le préciser parce que l'Italie n'a pas ces contraintes-là. Ils viennent pour travailler et ils repartent.
Dernier mot, vraiment.
Je rebondis sur ce que dit Régis, justement. Moi, au mois de janvier, sur les plages de Saint-Louis au Sénégal, j'ai rencontré un passeur qui s'appelle Abdoulaye. Et qu'est-ce qu'il m'expliquait? Il me disait, ici, lorsque tu vas à l'hôpital, tu dois payer. En France, tu ne payes pas. Et en plus, il y a des associations qui t'aident. La réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont au courant des aides sociales. Et du coup, la France... forcément, notamment parce qu'aussi ils sont francophones, c'est un objectif final. Et il faut arrêter de dire que ça serait de la fake news.
Enfin, est-ce qu'on prend le risque de sa vie pour, comme vous l'avez rappelé, traverser des océans, des mers, simplement parce qu'on sait qu'on va être soigné gratuitement? Peut-être qu'il y a d'autres buts aussi
pour ces personnes. Non, mais c'est un benchmark. C'est-à-dire que derrière, ils veulent ce sont des entrepreneurs, ils veulent venir, ils veulent gagner mieux leur vie, ils veulent aider leur famille. Il y a une pression familiale aussi. Moi, j'en ai beaucoup vu qui m'expliquent que leurs frères sont déjà partis en Europe, que leur mère leur dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu coûte de l'argent ici, donc à un moment donné, il va falloir que tu y ailles. Donc c'est ça aussi qui se passe. Il y a de plus en plus de migrants, moi, qui m'expliquaient, quand je leur posais la question, mais est-ce que vous n'êtes pas triste de quitter votre famille? Et qui me disent, mais non, ma famille, maintenant, elle est en France. En fait, c'est un déracinement de ne pas pouvoir venir. Parce que plus le temps va passer, plus ils auront justement du monde qui sera chez nous.
23h quasiment 30, on marque une pause actu avec Maureen Vidal. En une minute, l'essentiel à retenir. Maureen.
Un homme de 27 ans, principal suspect du coup de couteau mortel porté à un adolescent de 15 ans, son père et son frère placés en garde à vue à Romans-sur-Isère. Mardi soir, la victime avait tenté de s'interposer dans une altercation dans le quartier de la Monnaie où il a pris un coup de couteau. L'enquête a été requalifiée en meurtre avec préméditation. La tension monte au Proche-Orient. Une attaque massive de l'Iran contre Israël est imminente, préviennent les États-Unis. Des représailles qui interviennent après une attaque meurtrière le 1er avril. Une frappe qui a détruit le consulat iranien à Damas et fait 16 morts. Israël a déclaré se tenir prêt. La Maison-Blanche a mis en garde Téhéran à propos d'une potentielle attaque contre Israël. Un mot de football pour finir. Au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain contre Barcelone, Marseille a également chuté en quart de finale aller de la Ligue Europa. Sur la pelouse du Benfica Lisbonne, les Phocéens se sont inclinés 2-1. But inscrit par Rafa Silva et l'ancien parisien Angel Di Maria. Malgré la réduction de l'écart d'Aubameyang, les Marseillais devront impérativement s'imposer au match retour. Ce sera jeudi prochain au Vélodrome.
On précise, merci beaucoup Maureen, que deux autres suspects également sont en garde à vue donc dans cette affaire de Romans-sur-Isère. Merci Maureen Vidal. À Strasbourg, alors cette affaire également, elle a beaucoup fait parler, notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui. À Strasbourg, un gérant d'un magasin Geox, c'est une marque de chaussures il me semble, refuse une intérimaire dans son magasin, car elle porte un voile. Une intérimaire qui vient pour travailler pour la journée dans ce magasin, il la refuse et il appelle l'agence d'intérim. La scène a été filmée, diffusée par cette dernière sur les réseaux sociaux, créant une polémique. L'enseigne était-elle dans ce droit? On va en discuter. Regardez d'abord cette séquence.
Alors là, on est sur un lieu privé, donc vous récupérez vos
affaires. Monsieur, je parle qu'à un moment. Je vais aussi patienter que vous appelez l'agence qui m'a fait amener ici.
Là, mais là, c'est moi qui vous demande de récupérer vos affaires.
J'attends que vous finissiez.
Non, c'est un lieu privé.
Parce que vous n'avez pas changé mes propos.
Je ne sais pas si vous entendez ou pas, mais...
C'est vous qui changez mes propos.
Moi, j'ai jamais eu ce cas-là. idéal. Ah bah oui, bien sûr, mais sauf que là, elle est là, elle ne veut pas partir. Là, elle est devant moi.
J'attends que vous finissiez.
Ah mais vous n'allez pas attendre que je finisse.
Bien sûr.
Si je vous demande de sortir, vous sortez.
Non, bien sûr, j'attends que vous finissiez. J'attends que vous finissiez, parce que je ne veux pas que vous changiez mes propos en disant que c'est moi qui ne veux pas rester.
Je ne change pas les
vous
propos.
Vous me dites de partir, c'est différent.
Je ne change pas les propos.
Vous me dites vous de partir, c'est différent.
Vous n'avez pas la tenue adéquate, je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue adéquate.
Voilà, dites ça à ce groupe, mais ne dites pas que c'est moi qui ne veux pas rester.
Ah, vous m'avez dit que de toute façon, vous ne vouliez pas faire la mission comme ça. C'est vous qui me l'avez dit.
Non, pas du tout.
On va pas y
parler. Pas du tout.
Effectivement, il faudra trouver un autre student.
Discrimination ou pas, Eric?
Le sujet, c'est pas les discriminations.
Bah, moi, c'est ce dont elle se plaint.
Je trouve que ce gérant, il fait une bonne chose. Et que, en fait, aujourd'hui, ça rappelle aussi qu'il y a beaucoup de Français qui peuvent tout à fait lutter, justement, contre une certaine forme d'islamisation. Pourquoi j'en parle? Parce que, on voit très bien que cette jeune femme, aujourd'hui, eh bien, elle essaye de faire le buzz, elle a son téléphone, etc. Elle en profite, elle jette justement cet homme dans l'opprobre, que du coup, derrière, eh bien, il va se faire menacer, il va potentiellement se faire agresser. Donc, derrière, bah oui, il y a des Français qui, à un moment donné, disent stop, parce qu'on peut pas parler de l'islamisme au quotidien, en permanence, et se dire que, on ne pourrait pas choisir.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et on est d'accord sur le fond. Maintenant, il y a une question légale, tout simplement. Est-ce que ce monsieur est dans son droit? Est-ce que c'est une discrimination réelle ou non? On rappelle qu'on n'est pas dans l'espace public. Alors évidemment, on s'est penché sur les textes de loi. On va lire ensemble ce que dit la loi, qui dit que si le règlement intérieur dispose de l'interdiction de signes religieux ostentatoires, alors ce responsable ne fait que son travail. La vérité, c'est qu'on ne connaît pas le règlement intérieur de cette marque Geox. Mais en résulte que dans un cas de contact avec la clientèle, la loi donc permet à la direction de refuser ces tenues ou exiger une forme de neutralité vestimentaire. C'est pas la laïcité en tant que telle, c'est une neutralité et un choix privé fait par une enseigne.
Mais le non-port du voile pour les personnes qui ont un lien avec le public dans la plupart des grandes entreprises est inscrit dans le règlement intérieur de cette entreprise. Alors on verra bien si c'est le cas de Geox, mais le contraire serait quand même surprenant. Merci. Donc il est évident que cette jeune femme intérimaire devait avoir un contact avec le public, en l'occurrence avec la clientèle. Donc je crois que le gérant est évidemment dans son bon droit. Mais on voit là qu'il s'agit à nouveau d'une provocation. Comme la jeune fille arrivée voilée au lycée Maurice Ravel avait tenté de provoquer le proviseur et les enseignants de ce lycée, le proviseur qui lui aussi était dans son bon droit. Donc on voit à chaque fois qu'ils essaient de tester les limites et d'imposer à nouveau leur mode de vie, la vision qu'ils ont eux de la société. Eh bien tout cela n'est pas compatible avec la vision et avec les valeurs et les lois françaises.
Et dans ces deux cas, c'est intéressant que vous releviez et que vous fassiez un parallèle avec l'affaire de Maurice Ravel, Raphaël Steinville, parce qu'à Maurice Ravel, à l'arrivée, C'est cette jeune fille voilée qui a gagné, puisque c'est le proviseur qui est parti. Et à l'arrivée, c'est cette intérimaire voilée qui a gagné. Parce que ce monsieur, cet après-midi, il a dû fermer son magasin. Et sur les réseaux sociaux, il se prend des dizaines et des dizaines de menaces de mort. Et Dieu sait ce qu'un fou pourrait venir tenter de faire à ce monsieur qui se retrouve dans une immense tourmente. Cette jeune femme a filmé toute la scène, a mis le visage. Nous le floutons, bien sûr, mais sur les réseaux sociaux, on le reconnaît parfaitement. Il n'y a pas de floutage. C'est elle qui a enfreint la loi, pour le coup, très clairement aujourd'hui.
Le simple fait de filmer le
et de le diffuser publiquement.
Bien sûr que c'est déjà une infraction.
Elle lui a mis une cible dans le dos.
Et c'est ça, en fait, le plus grave. Mais on voit qu'à travers ce testing, parce que c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit pour cette jeune musulmane de montrer qu'elle est victime de discrimination et finalement de jouer la victimisation pour pouvoir faire progresser le combat de sa communauté et avec elle. Mais effectivement, elle a mis une cible derrière sur le dos de ce gérant de magasin. C'est ça qui est dramatique. Bien sûr qu'il a fait preuve d'un certain courage parce que il faut pouvoir dire non, il faut pouvoir dire stop. Le problème, encore
déjà, je pense qu'il n'a pas conscience qu'il est filmé à ce moment-là, parce que sinon, il lui aurait demandé d'arrêter. Donc, elle le piège, très clairement.
Oui, mais c'est récurrent, presque systématique dans ce genre d'affaires.
C'est fait dans une lâcheté absolue, puisque son visage à elle, on ne le voit jamais.
Alors, elle se montre sur les réseaux sociaux. En publiant cette photo sur les réseaux sociaux, elle apparaît. Ouais. Et d'ailleurs, elle a fait une vidéo.
Avec son identité, vraiment.
Je ne suis pas allé jusqu'à chercher son identité, je vous avoue. Aussi, maintenant, elle a fait une vidéo là, qui est consultable également sur les réseaux sociaux, dans laquelle elle explique qu'elle est nouvellement voilée et que notamment sur ses profils, sur le site de son agence intérim et sur le site de son réseau LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, elle n'apparaît pas voilée parce qu'elle a parfaitement conscience qu'elle pourrait rebuter certains employeurs du fait d'apparaître voilée. Donc elle est vraiment dans une stratégie de buzz où elle est allée avec son voile pour démontrer que quand elle apparaît avec le voile, elle a peu de chances de trouver son employeur satisfait. C'est assez machiavélique quand même comme façon de procéder.
Oui, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas le voir d'un point de vue du droit, parce qu'on sait très bien que le droit peut se changer. S'il était parfaitement dans son droit, ce gérant, on verra des responsables politiques dire que justement la loi est discriminatoire. Ce n'est pas grave d'avoir une discrimination si à un moment donné on va considérer que la discrimination est plutôt mise sur un fait religieux qui va être caractéristique. C'est pas sur cette personne, on n'est pas en train de dire que parce qu'elle est musulmane, elle n'a pas le droit d'être embauchée. On est en train de parler justement de la signification du voile, dans le fond. C'est ça la véritable question. On ne peut pas, lorsqu'on parle de Bordeaux, entendre des spécialistes comme Pierre Vermeeren expliquer que cet islamisme qu'on voit gangréner justement en Bordeaux, il se voit notamment par le port du voile depuis les attentats de 2015. Et derrière, lorsqu'on va voir quelqu'un venir justement pour candidater avec un voile, étant donné que c'est un cas individuel, parce que c'est toujours la question de l'individualisation des choses qui pose problème, on va se dire « Ah oui, mais cette personne-là, c'est bon, c'est un musulman modéré. » Ça pose à chaque fois cette question-là. Qu'est-ce qu'être un musulman modéré aujourd'hui ? On ne la pose pas. Est-ce que c'est porter le voile ou non ? Et à un moment donné, ben oui, ça se pose en fait. Parce que
demandez aux Iraniennes qui luttent pour l'enlever.
Oui, mais même dans l'espace public aujourd'hui, dans l'espace public, si on se retrouve avec une majorité de musulmans demain, 90% de musulmans, il y en a 6 millions en France qui, dans la rue, à chaque fois, portent le voile. Est-ce qu'on va se dire que la France a été gangrénée par l'islamisme ? Je le crois. Donc bien entendu que le port du voile aujourd'hui, même si c'est très difficile de le dire parce qu'on va toujours trouver des musulmans qui vont porter le voile, qui vont vous expliquer qu'ils sont modérés, étant donné qu'il y a justement énormément de musulmans en France.
À chaque fois qu'on a ces discussions, moi je pense à Latifa Ibn Ziaten, qui est qui peut difficilement être taxé d'islamisme.
Oui, mais c'est un cas individuel.
Qui est une dame profondément ancrée dans les valeurs de la République, qui a vu son fils assassiné, comme chacun sait, militaire français, militaire pour la France, assassiné par un djihadiste. En l'occurrence, on peut difficilement la taxer d'islamisme.
Oui, mais c'est un cas individuel, Julien.
Des dames qui vivent en France depuis des années, qui par tradition portent un foulard, comme Latifa Ibn Ziaten, je suis pas sûr qu'elle participe à
Vous allez dans certains pays à l'étranger où il y a des prières de rue qu'on condamne aujourd'hui chez nous, il y a des appels à la prière. Ces gens-là, quand vous allez leur parler, vous allez trouver qu'ils sont modérés. Hein. Donc vous pouvez tout...
Vous êtes en train de me dire que Mme Ziaten est une fondamentaliste ?
Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que prendre des cas individuels, en fait, à un moment donné, ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à mettre une limite. Parce qu'on va vous trouver justement des musulmans qui font de l'appel à la prière dans certains pays, qui vont être modérés, donc on va se dire qu'on peut tout à fait le dupliquer en France. C'est ça la problématique, c'est qu'il faut mettre des lignes rouges.
La vraie question, je pense, sur la, cette femme du faut rappeler le parachutiste qui a été assassiné par Mohamed Merah, cette mère justement qui apparaît tout le temps avec son voile. Il y a un certain nombre de communautés en France. Vous avez des personnes, oui, qui ont vécu souvent au Maroc, en Tunisie et autres, une partie de leur vie, qui sont voilées et qui n'ont pas cette attitude prosélyte, qui n'ont pas cette attitude de conquête. Or, ce qu'on voit là, c'est qu'on est dans une affirmation, on est dans une posture militante, et c'est très différent. Et je pense que, en effet, aujourd'hui, ça, le danger, il est là. Le danger, il est là, c'est cette espèce de diffusion dans la société d'une forme de radicalité islamique qui se manifeste à plein de niveaux, parfois par des choses en apparence pas très importantes, mais qui peuvent se terminer de façon dramatique. En l'occurrence pour ce gérant d'établissement Géox, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Et en tout cas, cette provocation, elle existe auprès de certains, mais il existe aussi une partie des musulmans qui portent le voile en France, pour qui ce n'est pas une marque particulière de « il faut que tous les gens deviennent musulmans ».
Surtout contrairement au cas dont vous parliez tout à l'heure, aujourd'hui ça touche surtout les jeunes. À l'époque, justement, la libération des femmes musulmanes qui voulaient justement faire preuve de transgression,
moi, c'était dans le mères de famille, voile. Aux grand-mères qui ne représentent pas par tradition le portent. Voilà, c'est vrai que quand vous avez 15 ans et que du jour au lendemain vous portez le voile, ça pose question, évidemment.
Et des générations qui demain vont avoir des enfants et vont s'occuper de l'éducation des enfants, alors que l'école aujourd'hui, justement, a délaissé cet aspect de l'éducation de la laïcité. Donc c'est ça qui est très dangereux.
Il nous reste 4-5 minutes. Je voudrais vous faire entendre le papa de cet adolescent de 15 ans tué à Romans-sur-Isère mardi. Vous savez que l'homme soupçonné d'ailleurs d'avoir porté un coup de couteau mortel à ce jeune a été placé en garde à vue après s'être rendu lui-même. Maureen nous le disait. Deux autres personnes sont en garde à vue d'ailleurs ce soir. L'adolescent poignardé à Romans. L'altercation a eu lieu dans le quartier de la Monnaie, tristement célèbre après la mort du jeune Thomas à Crépol à l'automne dernier. Le jeune homme inconnu des services de police, je parle de la victime, s'est retrouvé donc au milieu d'une bagarre dont le motif était apparemment très futile. Il a voulu s'interposer pour y mettre fin. Il a reçu un coup de couteau dans le dos et a succombé à ses blessures. Peu de temps après, à l'hôpital, son papa a témoigné chez nos confrères d'RTL aujourd'hui. Je voulais juste que vous entendiez ce qu'il avait à dire.
Je te dis, mon fils, il n'a rien à voir avec ça. Parce que les gars qui sont disputés, lui, il veut les séparer. Et juste, il veut séparer, c'est tout. Après, d'un coup, l'autre, il a planqué un couteau dans son ventre. Peut-être qu'il a tapé dans le cœur, je ne sais pas où, je ne sais pas. Terrible. C'est trop pour moi. Il était bien, c'est un bon mec, un gars gentil. Il travaille, il a un contrat d'apprentissage dans le bâtiment. Ouais. Il fait le placo, il ne filme pas, il ne fait rien du tout. Ouais.
Et l'enquête a été requalifiée, d'ailleurs, on l'apprend également aujourd'hui, en assassinat. C'est catastrophique ce qui se passe dans cette ville, déjà de Romans-sur-Isère, parce qu'on connaît Marie-Hélène Toraval, qui a alerté de nombreuses fois. On passe notre temps en ce moment à commenter ce type d'affaires dramatiques.
Sur des villes qu'on ne connaissait pas avant.
Non, en tout cas, n'inquiétez pas. Enfin, on connaît vraiment Romans-sur-Isère comme ça de nom. C'est vrai
que maintenant, ils ne sont pas de la région. Ouais. Le quartier de la Monnaie.
Oui, le quartier de la Monnaie, Romans-sur-Isère, est nationalement connu aujourd'hui.
Les grandes bornes, c'est assez inquiétant. Ce qui est terrible dans le témoignage de ce père, moi, je ne l'avais pas entendu sur RTL, mais je l'ai lu chez nos confrères du Figaro, c'est que ce gamin, il était là presque par hasard, il était venu voir sa famille pour la fin du Ramadan. Il vit dans une zone frontalière avec la Suisse, il travaille là-bas, il est intégré dans la société, et vraiment c'est le pas de bol, quoi. Il a voulu s'interposer au milieu d'une rixe comme il y en a régulièrement dans ce quartier, et c'est lui qui le paye de sa vie avec, faut-il le préciser quand même, un coup de couteau qui lui a été porté dans le dos, ce qui ajoute à la cruauté, à la lâcheté de celui qui l'a agressé.
Ou quand des faits divers qui se reproduisent quasi à l'identique deviennent des faits de société, comme beaucoup veulent le rappeler. Je ne sais pas si l'un de vous veut apporter un dernier commentaire. Johan.
Oui, il est évident que nous assistons là à un processus de décivilisation, c'est un terme qui a été repris par le président de la République. Il y a deux phénomènes en fait qui sont à l'œuvre dans ce pays. Il y a la décivilisation, c'est-à-dire des jeunes, notamment des jeunes qui ont perdu tous leurs repères, qui ont perdu les valeurs, qui n'adhèrent plus aux principes républicains. Ça, c'est le principe de décivilisation. Et puis il y a ce dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est le conflit de civilisation qui oppose effectivement la civilisation que nous connaissons, nous, nos mœurs, notre mode de vie, les lois républicaines, à ceux qui veulent pratiquer un islam qui ne s'inscrit pas dans ces principes-là. Donc il faut bien différencier ces deux principes-là, mais tous les deux sont à l'œuvre dans ce pays.
Allez, tout dernier mot, parce que je voudrais vraiment finir avec une petite info beaucoup plus légère et rendre l'antenne avec un sourire.
Moi, ce sera rapide, c'est juste pour dire que je souscris à ce que dit Johan, mais je dirais même des jeunes qui n'ont jamais eu ces repères. Ils ne les ont pas perdus, il n'y a pas de décivilisation les concernant.
C'est vrai.
Vous savez, lorsqu'on parle des émeutiers de juin dernier, c'est dans le fond leurs parents. C'était la génération des émeutiers de 2005. Donc ils ont été éduqués dans cette culture de la violence, de la haine de la France, de la haine du flic, de la haine du policier. Donc là-dessus, on est absolument pas sur une perte de repères, on est sur une absence de repères et la construction d'un nouveau modèle qui est déjà donné à la naissance.
Bon, voilà ce que l'on pouvait dire sur ces successions d'actualités tragiques et graves. Il nous reste à peine une minute. Je voudrais vraiment, vous donner cette info qui relève de l'anecdote, mais pas forcément. D'ailleurs, une étude dévoilée aujourd'hui par Sunday, spécialiste des solutions de paiement aux restaurateurs. Une table sur cinq seulement laisse un pourboire dans l'Hexagone, en France, dans un restaurant. 19% très précisément, pour un montant moyen atteignant 5,7%. Il y a un classement des régions les plus généreuses en termes de pourboire. La Provence-Alpes-Côte d'Azur est en tête avec un pourboire accordé une fois sur trois. En Occitanie, où les Français donnent un pourboire lors d'une addition sur quatre, cette dernière est à égalité avec la Normandie, tout en bas du classement. Alors c'est le Pays de la Loire, le Centre-Val-de-Loire qui ne sont pas les plus généreux sur cette question, 8 et 6% contre 10% dans les Hauts-de-France. C'est 17% en Ile-de-France, en dessous de la moyenne nationale. Régis, donnez des pourboires, vous, quand vous allez au restaurant?
Moi, je donne des pourboires.
Toujours,
mais
à chaque fois?
Pas toujours, ça dépend. Enfin, il faut la prestation, mais assez souvent. Non, il y a deux constats. C'est soit les Français sont radins, soit ils constatent une perte de plus en plus dramatique de leur pouvoir d'achat. Donc, ils n'ont pas les moyens de donner un pourboire. Et on vit quand même dans un pays où il y a une paupérisation du peuple français.
Je sais que Johan Usaï, à chaque fois qu'il va au restaurant, donne quasiment 50% de l'addition en pourboire. Il est extrêmement... 40%. Vous êtes à 40%. Bon, eh ben merci. Moi, je vais souvent... J'irai dîner avec... Je vous servirai d'ailleurs prochainement, si c'est possible. Comme ça, je récupérerai un petit peu. Merci, les amis. Merci Eric, Raphaël, Régis, Johan, bien sûr. Merci à Patrick Urban qui a préparé cette émission, avec Coralie Deleplace et Martin Mazur, bien sûr aussi. Les amis, on est jeudi, donc demain c'est vendredi, c'est le début du week-end. Olivier de Kerenfleck prend la relève pour Soir Info. Je vous retrouverai lundi. Mais d'abord, c'est l'édition de la nuit avec Simon Guilin. Bonne nuit à tous.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.